Le mystère de Kerhaven, de Delhi. Tome 1. Première partie, la fille du colporteur. Chapitre 1. Il pleuvait depuis le matin, petite pluie fine, serrée, que les marins appellent crachin. Elle noyait l'horizon et tendait son triste voile gris, humide, sur la mer sombre, presque tranquille aujourd'hui, sauf autour des récifs contre lesquels, toujours, elle écumait en vagues pressées, rageuses, comme demandant au roc sournois la proie qu'il lui avait si souvent procurée depuis des siècles. La route conduisant au petit port de Connestel n'apparaissait pas cependant trop boueuse, grâce à son sol dur, un vrai sol de granit, comme le répétait le colporteur qui avançait d'un pas lourd en poussant devant lui une petite voiture recouverte d'une toile cirée. C'était un homme d'environ 45 ans, plutôt petit, maigre, les cheveux blonds grisonnants. Des yeux d'un bleu vif brillaient dans sa face blafarde, aux traits mous. Une longue pèlerine en drap verdi tombait sur ses épaules. Un large béret noir le coiffait. Des bottes solides montaient jusqu'à ses genoux, et leurs semelles épaisses, leurs talons ferrés, martelaient le sol qui rendait un son mat. Près de cet homme marchait une petite fille d'une douzaine d'années. Une vieille robe, très propre, habillait son mince corps souple et alerte. Un capuchon de drap gris cachait complètement ses cheveux, encadrant un visage d'une blancheur laiteuse, aux lèvres fines et roses. Des cils blonds frangeaient les paupières, voilant à tout instant les yeux d'un même bleu vif que ceux de l'homme, des yeux à l'expression mobile, changeante, singulière. En réponse à la réflexion de son compagnon, elle dit avec une moue d'ennui : « Ce pays est triste, papa. Y resterons-nous longtemps ?»« Peut-être. Cela dépend des renseignements que j'obtiendrai. Mais quand le soleil sera là, tu verras, Elsa, que cette côte bretonne est très belle. » Tous deux parlaient français très correctement. L'enfant n'avait presque pas d'accent étranger, mais celui du père, bien que relativement peu prononcé, dénonçait néanmoins une origine germanique. Elsa secoua la tête. « Oui, peut-être. » Mais pour le moment, ce n'est pas gai. Puis nous sommes mouillés, papa, mouillés comme de pauvres chiens. C'est un dur métier que nous faisons là, vraiment. Certes, mais les profits vont devenir meilleurs maintenant que je suis mieux appréciée. Tu seras riche, Elsa, si je vis encore quelques années. Je suis sur une piste intéressante qui peut me rapporter gros. Mais j'aurais voulu que tu restes chez nos cousins Mulbach, bien tranquille, au lieu de me suivre comme cela, dans ses fatigantes pérégrinations d'un bout de la France à l'autre. Elle secoua de nouveau la tête. « Non, je veux être avec toi. Je ne veux pas te quitter, papa. Et puis cela m'intéresse tellement ce que tu fais. » Une sorte de sourire glissa entre les lèvres pâles de l'homme, et ses yeux, un peu durs, s'adoucirent un instant en se fixant sur l'enfant. « Oui, tu es intelligente, tu comprends. Et vraiment, tu es pour moi une précieuse petite collaboratrice, ma fille. » Un éclair d'orgueil brilla dans le regard d'Elsa. « Je voudrais l'être bien davantage encore. »« Oh, papa, puisque tu es fatigué, je vais t'aider beaucoup ici. J'irai, je viendrai dans le pays, je questionnerai les gens, je regarderai bien tout. »« Certes, je te le répète, tu m'es précieuse, mais il y a des choses que je dois voir par moi-même. Et il s'agit ici d'une question importante. Ce lieu avancé de la côte bretonne peut avoir une grande valeur. Il s'agit de le faire nôtre, de le préparer. Moi, j'indique, d'autres viendront qui feront le nécessaire. Mais il faut auparavant que je note les points intéressants. Voilà ce que tu ne peux faire, ma fille, du moins pas encore, car d'ici 2 ou 3 ans, je te crois fort capable d'être devenue aussi forte que moi sur ces sujets-là. » De nouveau, l'orgueil s'alluma dans les yeux de l'enfant. « Oh oui, oui, je comprends déjà, papa, je comprends très bien. » « Tu verras comme nous ferons de bonnes besognes à nous deux. »« Tiens, voilà Connestel, que voit-on là-bas? Un château ?» Elle étendait la main vers la droite. Dans la bruine, on distinguait un peu vaguement la masse imposante et les tours d'une vaste construction. « Oui, le château de Runesto. Il appartient à une famille de Panvalas. » Quand je passais une première fois par ici, voilà environ 3 ans, le marquis de Panvalas venait de mourir, laissant 2 enfants, déjà orphelins de mère. Il y a de la fortune là-dedans, beaucoup de fortune. J'ai pris mes renseignements sur cette famille, à l'époque, car tout peut servir un jour ou l'autre. Oui, souviens-toi bien de cela, enfant. Les plus menus faits qui te paraissent insignifiants, les plus petits détails, les paroles oiseuses, en apparence, doivent être notés, catalogués dans ta mémoire. C'est avec cette méthode, ce souci de la moindre chose, qu'on arrive au but, dans la vie des individus comme dans celle des nations. Et ce sera le triomphe de notre race d'avoir su préparer longuement, patiemment, les routes par où passeront les missionnaires d'une civilisation supérieure. » La voix un peu faible de l'homme s'enflait, prenait un ton d'emphase. Des lueurs s'allumaient dans son regard, mais elles s'éteignirent aussitôt. Le colporteur pâlit, s'arrêta un moment en portant la main à sa poitrine. « Encore cette douleur qui m'étouffe !» Elsa leva sur lui un regard inquiet. « Il faudrait voir un médecin, papa. »«
Oui. » »«
Mais il n'y en a pas, sans doute, dans ce petit village. J'irai à la prochaine ville. » « Allons en route, c'est passé. Je me reposerai quelques jours à Connestel avant de reprendre notre chemin. » Ils se remirent en marche. Elsa aidait maintenant son père à pousser la voiture. Comme ils atteignaient les premières maisons de Connestel, les étrangers croisèrent deux adolescents chaussés de bottes serrés dans des manteaux de caoutchouc. L'un était mince d'allure élégante, brun, au fin visage, éclairé par de beaux yeux ardents. L'autre, blond et de mine indolente, avait l'apparence d'un gros garçon, un peu poseur, mais assez bon enfant. Au passage, le premier jeta au colporteur ces mots d'une voix bien timbrée. « Mauvais temps, hein, mon pauvre homme, pour s'en aller sur les routes. »«
Ah, dame, oui, monsieur. »«
Mais il faut bien gagner sa vie. »« Allez jusqu'au château, on vous achètera quelque chose. » Et les jeunes garçons passèrent, tandis que le colporteur et sa fille continuaient d'avancer sous la pluie menue. L'homme fit observer. « C'est sans doute le jeune marquis de Penvalas. » Un beau garçon. Presque à l'entrée du village, le colporteur s'arrêta devant une petite auberge de médiocre apparence. Au-dessus de la porte se dressait une enseigne où se voyait, peint en jaune et vert, une sorte de monstre, moitié serpent, moitié poisson, sous lequel étaient inscrits ces mots « Au serpent de mer ». Le colporteur dit à mi-voix, s'adressant à Elsa. « C'est pauvre, c'est sale, mais il n'y a que ça dans le village. Il faut bien s'en contenter, petite. » Elle répondit sur le même ton. « Mais oui, papa. D'ailleurs, nous avons eu déjà d'autres logis pas bien agréables dans nos voyages. » L'homme entra dans l'auberge et s'adressa à une femme en coiffe bretonne qui pelait des pommes de terre près du foyer ou bouillait l'eau d'une marmite sur un feu de bois. « Pouvez-vous nous loger, ma fille et moi, s'il vous plaît ?»«
Mais oui, monsieur, facilement. »
« Vous êtes colporteur. Je vois ça à votre voiture. On va la rentrer dans la remise. » Il fait un si vilain temps. Êtes-vous mouillé, mon pauvre, et la petite aussi? Venez vous chauffer. Je vais vous servir un café, si vous le voulez.
Oui, c'est ça, un café bien chaud. Pendant ce temps, je vais remiser ma voiture.
Quelques instants plus tard, le père et la fille étaient installés près du foyer, devant un bol de café. L'aubergiste, si elle manquait de soin dans la tenue de son intérieur, se montrait une bonne femme très hospitalière. Elle avait enlevé les souliers mouillés d'Elsa et les remplissait de grains d'avoine, un très bon moyen pour les faire sécher, assurait-elle. La petite fille, les pieds bien au chaud dans les pantoufles que son père lui avait rapportées de la petite voiture, buvait son café avec une évidente satisfaction. Elle avait retiré son capuchon et maintenant voyait ses beaux cheveux noirs lustrés aux superbes reflets d'ailes de corbeau. Il formait avec son teint de blonde, ses sourcils clairs, ses yeux bleus, un contraste étrange qui ne permettait pas à cette physionomie d'enfant de passer inaperçue. Le père, lui, touchait à peine à son bol. Il finit par le repousser en disant « Ça ne passe pas !» Elsa demanda d'un air inquiet. « Te sens-tu plus fatiguée, papa ?»«
Mais non. C'est-à-dire, j'ai un peu d'étouffement. Une bonne nuit m'enlèvera ça.
Et demain, fillette, je te ferai faire une promenade intéressante. » L'aubergiste venait de sortir. Le colporteur ajouta en baissant la voix. « Tu verras Kéréven, la maison des veines, un logis curieux dont l'origine se perd dans le lointain. Je te raconterai son histoire ou sa légende. Il appartient à un monsieur de Valserre, officier de marine, fort savant, marié à une Espagnole, Inès Romanoès. » L'enfant répéta, une lueur de surprise dans le regard. « Romanoès ? Oui, elle est la sœur de Pepita Romanoès, devenue la femme de notre cousin Otto Mulbach. Ce commandant de Valserre est un parent très éloigné des Penvalas, avec lesquels d'ailleurs il n'a aucune relation.
Une brouille est survenue entre les grands-parents jadis. Puis les Valser ne revenant plus guère ici, on ne songea pas à se réconcilier par la suite. L'officier, un été, amena sa femme à Kéréven. Mais Inès, qui est une enfant gâtée, mondaine et futile, tellement différente de Pépita, s'y ennuya tant au bout de 2 jours que monsieur de Valser dut l'emmener vers des lieux plus attrayants. Depuis, la maison est fermée. Un vieux marin qui demeure non loin de là s'en occupe un peu, l'aère de temps à autre, et écoute bien ceci, Elsa. Il se penchait à l'oreille de sa fille, et sa voix devint un chuchotement. C'est cette maison qui m'intéresse. C'est elle que je viens étudier. Il s'interrompit, l'aubergiste rentrait. Elle s'approcha des voyageurs et dit en regardant Elsa. Elle est jolie, votre petite, et comme elle a de beaux cheveux. C'est drôle, on dirait presque qu'ils sont bleus, quand on les regarde d'une manière. Oui, ils ont en effet cette teinte. Ça fait très bien, et puis elle a un teint si clair. Alors, vous voyagez comme ça tout le temps? Eh oui, je suis déjà venue ici, voici 3 ans. Tiens, je me disais aussi que je connaissais un peu cette tête-là, même que je me rappelle maintenant vous avoir acheté des aiguilles et du lacet. Et de quel pays êtes-vous?
De la Suisse, mais je n'y suis pas retournée depuis longtemps.
Vous n'avez plus votre femme?
Non, elle est morte à la naissance de la petite.
Ah, c'est triste.
Alors vous l'emmenez comme ça sur les routes, cet enfant?
Il le faut bien, je n'ai plus de famille, et puis ça lui ferait de la peine de me quitter.
Je comprends, mais c'est une vie fatigante.
Oh, elle est forte, vous voyez d'ailleurs, elle n'a pas trop mauvaise mine. Le grand air, rien ne vaut ça.
Il passa une main caressante sur la chevelure de sa fille. Puis, changeant de sujet, il demanda.
C'est toujours la famille de Pinvalas qui habite le château?
Toujours, bien sûr. Runesto est au Pinvalas depuis les temps anciens, et ils n'ont pas envie de le laisser à d'autres, avec ça que monsieur Alain l'aime tant et voudrait ne le quitter jamais.
Nous avons croisé tout à l'heure 2 jeunes garçons, dont l'un, je suppose, était lui.
Oui, c'est ça, monsieur Alain Lebrun et son cousin, monsieur Maurice de Ronchet, qui est orphelin et vient passer les vacances à Runesto. Il est gentil aussi, mais il ne vaut pas monsieur Alain. Si intelligent, si joli garçon, et puis bon, aimable, quoiqu'il ait un petit air fier souvent. On dit par ici que c'est l'air des Pinvalas. Il n'empêche qu'on les aime bien, nos châtelains. Madame la marquise est une sainte femme qui se mettrait en 4 pour obliger le monde. Aussi, les malheureux savent bien où frapper quand ils ont besoin d'être aidés.
C'est la grand-mère des enfants?
Oui, elle les a élevés, puisque la mère est morte toute jeune, peu après la naissance de la petite mademoiselle Armelle. Et bien élevés, on peut le dire, ce sont des modèles d'enfants.
Sur ce, la brave femme retourna à ses pommes de terre, tandis que le colporteur essayait d'avaler encore quelques gorgées de café, qui parurent passer difficilement.